97. Saint François d'Assise et la fée. Pour obéir à un ordre du ciel, Saint François dut quitter ses chères grottes de la Verna. Douce nuit de verdure au-dessus de sa tête, ombre fraîche des rochers, parmi lesquels s'épanouissaient, comme des fleurs de pureté, des sureaux éblouissants de blancheur, de quel regret se sentit blessé son cœur quand il fallut vous abandonner. Il délaissait ces ténèbres d'amour où, se reniant lui-même, tout son être s'abîmait dans la contemplation de son Dieu. Il allait vers le jour et les visions terrestres afin d'enlever une âme aux maléfiques influences qui l'égaraient. Une fée habitait un vaste château du voisinage. Soumise aux esprits de destruction et de méchanceté, elle était, disait-on, adonnée à des œuvres sacrilèges et martyrisait, on ne sait en quel but, ces animaux auxquels François témoignait tant de tendresse. Mais sa haine poursuivait aussi les hommes. Nul ne pouvait voir ce corps onduleux et fort, ni contempler ses yeux où dormaient toutes les beautés de la terre, sans être brûlé d'un amour d'autant plus funeste qu'elle restait insensible. Elle paraissait avoir hérité des héroïnes du passé toute leur grâce, ayant l'audace et la splendeur d'Hélène, le charme lascif et la cruauté d'Hérodiade, selon les heures, vierge pudique ou obscène courtisane. Quelque peine qu'éprouva François à se rendre chez la fée, il n'hésita point, car il s'agissait d'augmenter le nombre des serviteurs de Dieu. Après une nuit de prière et de paisible sommeil, comme le jour commençait à poindre, François s'était éveillé et il s'était aussitôt préparé à partir. Dès qu'il eut franchi le seuil du couvent et quitté cette nuit des cavernes où le Seigneur lui apparaissait, il fut comme ébloui par la douce clarté du crépuscule. Au loin, les monts bleus étageaient leurs masses obscures. Les moissons étaient encore couvertes d'une ombre pâle. D'épais nuages blancs demeuraient suspendus au-dessus de la vallée, mais les oiseaux chantaient déjà dans l'air frais du matin. François acclama la lumière naissante et l'astre endormi à l'horizon dans un fleuve de sang. Il sourit à la rosée de l'herbe et aux verdures humides, puis dit adieu à la Verna, sombre en ce moment avec sa forêt de sapins et de hêtres. Sa frayeur s'était enfuie comme la nuit. Il ne redoutait plus la fée, toute son âme s'épanouissait. Il suivait le sentier pierreux, s'avançant parmi les rocs énormes que la tempête avait roulés çà et là, et sa marche était pleine de joie, car il ne se sentait pas seul. Mais voici, comme il passe devant de massifs châtaigniers aux lourds feuillages, une jeune femme vêtue de blanc qui lui fait un signe. C'est la fée. Elle a deviné sa venue et, courtoise, est allée au-devant de lui. François aperçoit des boucles blondes, des lèvres fraîches et souriantes. Il baisse vivement les yeux et, très troublé, s'avance vers la jeune femme. « Doux ami, dit la fée, pourquoi ne me regardes-tu pas ?»« Ah, madame, répond le saint, c'est que vous êtes belle, et je craindrais d'oublier pour vous mon sauveur. Mais, doux ami, pourquoi regardais-tu tout à l'heure le ciel et les arbres et ces montagnes lointaines? Tu devais craindre, aussi, que la vue de tant de merveilles troublât ta mystique contemplation. Madame, dans le ciel, dans les arbres et sur les monts, je voyais Dieu, tandis qu'en vous, hélas, réside le malin, fort de tous ses artifices. La fée part d'un grand éclat de rire qui consterne François. Doux ami, si tu me trouves belle, c'est que Dieu est en moi. Dieu est dans toute beauté, dans tout ce qui remplit de bonheur une âme humaine, dans tout ce qui satisfait le corps de l'homme saint et l'intelligence du sage. Je sais, dit François, que vous avez le don de déguiser à merveille l'erreur et le mensonge. Mais, avec l'aide de Dieu, j'échapperai à vos ruses. Touché de compassion pour l'état de votre âme, je viens justement, au nom du divin crucifié, et essayez de chasser la haine de votre cœur et vous rendre digne du bonheur céleste. » À ces paroles, une tristesse voile le visage de la fée. « Je n'ai pas le droit, réplique-t-elle, d'aspirer au bonheur céleste. Je suis comme toi, doux ami, un être de quelques années. » « Il est vrai, répond le saint, que nous ne demeurerons pas longtemps sur la terre, mais nous ressusciterons pour une vie plus glorieuse. Du moins ceux d'entre nous qui auront suivi la loi d'amour que Jésus est venu apporter aux hommes, ceux qui auront renoncé aux vaines richesses de ce monde. » François, sans le savoir, tu t'enivres de songes superbes. Tu donnes ta vie à conduire à l'orgueil qui la pousse vers des sommets inaccessibles et lui assigne un but illusoire. Soyons plutôt fidèles aux instincts qui chantent en nous. Nous serons fidèles à la nature. Acceptons des heures avec toutes leurs tempêtes. Et quand au soir des difficiles journées, le soleil rit sur la colline, ne détournons pas les yeux, car la douceur de ce rayon, c'est peut-être toute notre récompense. Je m'afflige, madame, à cause du Seigneur que vous insultez par vos discours, à cause aussi de votre conversion dont, si j'avais moins de foi, je pourrais désespérer. Je vois bien, hélas, qu'il me faudra plus d'un jour pour vous ramener à la vertu. Je voudrais cependant, sinon changer votre cœur, du moins l'émouvoir de compassion pour les victimes que vous avez faites. Il y a quelques jours encore, deux jeunes gens se sont battus pour vous, deux princes jeunes et courageux, destinés à une noble existence, unis jusque-là par une profonde amitié. On a trouvé l'un couvert de sang à la porte du château familial et il a expiré quelques instants après. Quant à l'autre, il traîne une vie si malheureuse qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il fût mort. Son père, tout en larmes, est venu me prier de dissiper la dangereuse illusion qui obscurcit son âme. Je m'adresse donc à vous, qui êtes l'unique cause de son mal. Brisez le charme qui enchaîne à vous cet enfant. Ah ! Il n'y a ni charme ni magie. Je ne suis qu'une pauvre femme. Mais la nature m'a faite, sans que j'y puisse rien, un instrument de mort. J'ai vu des villes incendiées. J'ai vu l'horreur des champs de bataille jonchés de cadavres et des villages en ruines. Parce que mes amants, afin de me rendre plus heureuse, tyrannisaient leur peuple. Je ne puis pourtant pas me détruire, meurtrir ma chair, me raser la tête et crever ces yeux qui enflamment les hommes. Si, ma sœur, vous devez vous sacrifier pour secourir vos semblables. Mais je ne suis pas toujours malfaisante. Comme les fleuves qui inondent et fertilisent, si je ruine, en même temps je relève et glorifie. Que d'êtres ternes et lassés ont senti, près de moi, tressaillir en eux une âme nouvelle. De combien d'images de beauté ai-je enrichi le monde? Si les strophes des poètes s'envolent riantes et musicales, si le marbre prend des formes divines, si des hymnes s'élèvent dans les vastes nefs, si une immense activité met les villes en rumeur et développe toutes les énergies humaines, n'est-ce pas parce que je suis là pour féconder les esprits et consoler les cœurs, pour endormir, caresser et illuminer? On accuse ma stérilité. On ne pense pas que je suis belle et on oublie tout ce qu'a créé mon regard. Le monde ne peut se passer de moi. Que serait le printemps sans mon sourire? Ma sœur, votre égoïsme et votre orgueil sont si abominables qu'ils m'arracheraient des malédictions. Vous attribuez à une pauvre créature mortelle ce qui n'est dû qu'à Dieu. Ma sœur, sachez-le, vous n'êtes qu'une main que quelqu'un mène. Doux ami, tu viens de dire la vérité, et c'est parce que ma main n'est point libre que je ne me déteste point. Ma sœur, si vous acceptez ma parole, si vous n'êtes pas aussi éloigné de la bonne route que je le pensais, oh, humiliez votre chair de pécheresse, que les orties déchirent votre corps, c'est à force de souffrance que vous sentirez la joie du Saint-Amour. Mon ami, je ne meurtrirai pas mon corps, car j'ai à préserver sa beauté. Hélas, j'espérais en vain vous convertir. Vous voyez que votre vie est funeste et vous ne voulez pas la changer. Il ne m'avait donc pas trompé, ce qui vous appelait l'ennemi de tous les êtres et racontait que vous assouvissiez votre haine même sur d'innocents animaux. J'ai tué, il est vrai, mais ce n'est ni par haine ni par cruauté. Je cherchais les secrets de la vie. Ne suis-je pas la fée? Il me fallait créer, et tu le sais bien, que l'on ne crée qu'en détruisant. Ah! Vous êtes l'esclave du démon. Vous êtes à jamais fermé aux pures extases de l'amour. Doux ami, doux ami, l'amour embrase mon âme comme la tienne, mais si tu t'effaces devant les créatures, je dois, au nom même de cet amour, préserver ma personnalité. Ne crois pas pour cela que je sois égoïste. À ma beauté, à ma pensée en qui Dieu rayonne, j'ai sacrifié mes jours. Que suis-je moi-même? Le brin d'herbe où brille la rosée, le flot aux mille rayonnements, pensée d'une vie qui ne m'appartient pas et que dirige une volonté supérieure. Des âmes viennent rire, viennent mourir en moi. Des êtres viennent grossir ma vie de la leur. C'est qu'elle a besoin elle-même d'être riche pour se prodiguer à toutes. La tâche et les fonctions des êtres ne sont pas semblables. Les uns sont seulement de petites bouches enfantines, altérées de lait. D'autres sont comme des mères qui doivent manger pour leur enfant. Mais sais-tu quelle lassitude m'accable de rester toujours moi-même quand je voudrais si bien, comme toi, m'oublier et m'anéantir. Tandis qu'il parlait, les grands brasiers rouges à l'horizon s'étaient éteints. Le ciel resplendissait d'un bleu pur et le soleil montait, épandant partout une chaude lumière. François s'agenouilla, chantant la gloire de Dieu qui visite et illumine toutes les choses de la terre. La fée était partie, mais comme elle passait devant une fontaine, elle ouvrit son manteau, dénoua sa longue chevelure et se mirait dans l'onde claire.